le livre du commencement, et force est de constater que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Au contraire, il semble même que ça va de moins en moins bien dans cette création où tout était bon au départ. On assiste non seulement à la propagation du mal, mais aussi à l'inflation du mal, à l'explosion du mal et l'apparition d'une expression du mal, la violence. Il y a un type dans cette histoire qui tue son frère, qui tue un frère qui était fait à l'image de Dieu. Cet homme fait à l'image de Dieu tue cet homme fait à l'image de Dieu. Genèse 4, une sale histoire. Une sale histoire de famille en plus. Ce sont deux frères. Une histoire de famille qui se termine mal. Et vous savez que John Steinbeck, cet auteur américain qui est passé sur Arte, enfin il n'est pas passé sur Arte, mais on a parlé de lui sur Arte cette semaine pour son autre livre, Les raisins de la colère. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle « À l'Est d'Éden », à l'Orient d'Éden. Et il y a 15 ans, a fait un film avec le magnifique James Dean, le Brad Pitt d'alors, de l'époque. Une histoire aussi de James Dean qui se termine mal. Mais dans le film d'Elia Kazan, à l'est d'Éden, c'est une histoire de jalousie entre deux frères. Jalousie pour une femme, très belle, mais ça valait pas la peine qu'un des frères tue l'autre pour une femme, par jalousie. Et ce film, même s'il date un peu à l'est d'Éden de Elia Kazan et puis de John Steinbeck, nous rend cette histoire de Caïn et Abel actuelle et proche de nous, la jalousie dans notre vie. On n'a pas besoin d'un frère pour percevoir l'autre comme un rival. Qui n'a jamais été jaloux du succès d'un proche ? Qui n'a pas eu envie de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ce proche qui réussissait dans tout ce qu'il faisait alors que nous, on patine ? On va d'échec en échec. Aristote parlait de l'envie. Aristote, un philosophe grec de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, parlait de l'envie comme une douleur que provoque en nous l'excellence, la supériorité ou la réussite d'autrui. Une douleur, une explosion d'émotion, une douleur de voir l'autre réussir et qui provoque en nous un désir de se débarrasser de lui ou d'elle. Peut-être pas en se jetant sur lui avec un couteau, mais en lui faisant mal, ou en s'arrangeant pour le mettre à l'écart. Quand on parle de prolifération du mal, ce n'est pas une vue de l'esprit, n'est-ce pas ? Alors le problème avec Caïn et Abel, c'est qu'on a l'impression que c'est Dieu qui crée le problème. En acceptant l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Et il est vrai que si on s'arrête au premier verset, est-ce que quelqu'un peut tourner l'écran pour que je puisse voir ce que je montre ? On aurait envie, si on s'arrête au premier verset où il est dit que Dieu préféra l'offrande d'Abel à celle de Caïn, on aura envie de se ranger du côté des défenseurs de Caïn. Il y en a toujours, il y en a même aujourd'hui qui se font les avocats de Judas. On a envie de défendre ces personnes-là. Mais avant de réhabiliter Caïn, je vous propose de voir dans ce terrible récit ce qu'il nous dit vraiment, ce qu'il ne nous dit pas aussi, et enfin ce qu'il pourrait nous dire pour nous aujourd'hui. La question de l'offrande, qui est de l'ordre de la spiritualité, elle pose la question comment faire une offrande qui serait acceptée par Dieu ? Manifestement, celle d'Abel a plu à Dieu et celle de Caïn beaucoup moins. Pourquoi ? Certains ont parlé de l'arbitraire de Dieu, l'arbitraire dans son sens positif, c'est-à-dire que Dieu est libre d'accepter une offrande et d'accepter de ne pas accepter une autre offrande. Dieu est libre et souverain, le bon arbitraire de Dieu ou le bon arbitre de Dieu, il est libre d'accepter ou de refuser une offrande, mais la Bible cependant ne présente jamais Dieu comme une divinité capricieuse qui préfère la viande aux céréales à son petit déjeuner. Non, Il semble évident que le problème n'est pas dans la nature même de l'offrande, mais plutôt dans l'attitude de celui qui fait l'offrande. Il y a un indice dans le récit lui-même, et vous l'avez entendu ou peut-être pas, mais Abel offre les premiers-nés de son troupeau, et Caïn offre les légumes et les fruits en vrac. Pas les premiers fruits, pas les premiers légumes. Et pourtant, il aurait pu le faire, et on le fera par la suite, on offrira les premières moissons à Dieu dans le culte hébreu. Mais Caïn, lui, ne l'a pas fait. Et vous me direz, c'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Et l'auteur du récit nous le fait remarquer, le parallélisme n'y est pas. Premier-né de son troupeau et légumes et fruits. Et l'auteur veut nous le faire savoir. Et n'importe quel membre du peuple hébreu aurait relevé la différence en écoutant ou en lisant le texte. C'est un détail terriblement important. Et surtout, ce détail va nous révéler que le problème ne se situe pas au niveau de la nature de l'offrande, mais au niveau de la disposition du cœur de celui qui fait l'offrande. La question de l'offrande est en fait une question du cœur. Caïn ne fait pas l'offrande qu'il aurait pu faire. Il ne fait pas à Dieu le plus beau cadeau possible. Il fait une offrande quelconque et il garde le meilleur de sa récolte pour lui. Et cela nous dit beaucoup sur le cœur de Caïn et sur les dispositions du cœur de Caïn qui semblent ne pas être les meilleures qui soient. Et le Nouveau Testament nous parle plusieurs fois de Caïn. Et la première fois, c'est l'apôtre Jean qui nous en parle, et il nous dit que la façon d'agir de Caïn était mauvaise. Sa façon d'agir était mauvaise. Et pourquoi l'a-t-il tué, dit Jean ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise. Et quand Jean nous parle de la manière d'agir mauvaise de Caïn, il ne nous parle pas du meurtre, parce que c'est évident que ce n'est pas une bonne manière d'agir. Mais il nous parle d'avant. Et même l'expression utilisée nous montre qu'il y a une régularité dans cette mauvaise manière d'agir. Et Jean met le doigt sur l'attitude de Caïn devant Dieu qui ne serait pas la meilleure possible. Il n'est pas dans les bonnes dispositions quand il fait son offrande. Et on le voit aussi à sa réaction. Caïn se renfrogne. Il est fâché que Dieu n'ait pas accepté son offrande. Et on voit que Caïn est plus dans la comparaison, dans la compétition avec le frangin et surtout dans la transaction avec Dieu. Il n'est pas du tout dans l'esprit de l'offrande. Il y a un deuxième auteur qui parle de Caïn, ou plutôt d'Abel, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il place la question de Caïn en rapport avec la foi. Et il parle non pas de Caïn, mais d'Abel, en disant que Abel a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu. Puis j'ai oublié les premiers mots. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Abel a fait cette offrande par la foi, et Dieu reconnaît dans l'offrande d'Abel la foi d'Abel. Par contre, on ne dit rien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit rien sur Caïn, mais on peut tirer la conclusion que Caïn et son offrande n'est pas faite dans la foi. Alors, de quoi est faite cette foi ? Ou ce manque de foi pour Caïn. Il ne s'agit pas de la foi en Dieu, parce que Caïn offre cette offrande à Dieu. Mais il s'agit certainement de la foi qui touche à la confiance en Dieu, ou même à l'amour pour Dieu. Une foi qui se donne, et qui donne ce qu'il y a de meilleur sans rien attendre en retour, comme disait le chanteur. Surtout, qui ne cherche pas à faire d'une obligée, en l'obligeant de rendre bénédiction sonnante et trébuchante. Je te fais une offrande pour que tu puisses me bénir en retour. Un commentateur le faisait remarquer très justement, Dieu n'a pas besoin de telles offrandes. Des premiers-nés du troupeau, et des premières récoltes, et des premières moissons, ou des premiers fruits, ou des premiers légumes. Il n'est ni carnivore, ni végétarien, ni même végétalien, pour être dans le coup aujourd'hui. Ces offrandes ne l'intéressent que lorsqu'elles sont l'expression d'une foi, d'une adoration, d'un amour désintéressé, de la foi de celui qui offre. La foi de celui qui offre est centrale pour Dieu, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit plus loin, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ni soi-même, ni son offrande. Ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes de foi et des offrandes qui reflètent cette foi. Abel avait cette foi-là, et Caïn en manquait et son offrande le montrait. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout est fini pour Caïn ? Il agit mal, il manque de foi, il fait une offrande pourrie, c'est mort ? Est-ce que c'est mort pour Caïn ? Eh bien non, le récit nous montre que une autre suite était possible et que Caïn aurait pu réagir autrement après son erreur qui n'était pas et qui gravissime en fait. Nulle part le texte ne dit que cette offrande ratée était une erreur fatale. Non. Le récit nous montre que Caïn réagit assez mal. Et vous voyez la haine et vous reconnaissez le regard de Vincent Cassel, hein, c'est ça ? Hein, la haine, c'est un peu Caïn. Et puis on voit James Dean qui fait la tête dans « À l'Est d'Éden ». Et donc la deuxième question après celle de l'offrande, c'est la question de la réaction. Et on s'aperçoit que si Caïn a une réaction très, très émotionnelle, très forte, Dieu ne laisse pas les choses en l'état, dans le statu quo émotionnel, on va dire. Il intervient. Et il va y avoir un premier dialogue avec Caïn. Il intervient dans cette situation et le dialogue montre toute la sollicitude, la bienveillance, comme on l'a chanté tout à l'heure, la bienveillance de Dieu à l'égard de Caïn. Au lieu de lui faire des reproches parce qu'il n'aurait pas présenté une offrande convenable, il l'appelle et il l'invite à réfléchir en lui-même sur le pourquoi de sa colère. Et cela en trois phrases. Pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi es-tu fâché ? Dieu n'est pas seulement pédagogue avec nous, il est aussi fin psychologue avec nous comme il l'a été avec Caïn. Et il sait toute la charge émotionnelle de l'être humain qu'il a créé suite à une déception. Il sait aussi l'escalade qu'elle peut engendrer si on laisse la réaction émotionnelle prendre le dessus. D'ailleurs, nous qui connaissons la suite, on aura noté la disproportion qu'il peut y avoir entre l'affaire, l'offrande non acceptée, et les suites de l'affaire. Une offrande non acceptée d'un côté, un meurtre de l'autre. C'est disproportionné. Comme souvent, nos réactions par rapport à quelque chose qui nous arrive. Et cette distorsion est typique quand il n'y a aucun recul sur cette situation et quand on laisse libre cours à ses émotions. Et les exemples sont nombreux dans l'actualité de notre monde, mais pas seulement l'actualité de notre monde, mais dans notre actualité personnelle et relationnelle. Un mot de travers et on se fait la gueule pendant 6 mois. C'est ainsi que le plus doucement possible, Dieu suggère à Caïn de faire un travail sur lui-même afin d'arriver, Dieu voulant, mais Dieu le veut certainement, à ce que Caïn puisse mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et l'histoire aurait pu et aurait dû s'arrêter là, et Caïn aurait évité l'escalade de la violence, mais non, Caïn ne fait pas ce travail, et pourtant Dieu insiste en disant une deuxième parole, « Si tu agis bien, tu relèveras la tête. » Et cette parole de Dieu répond à ce verset 5, à la situation de Caïn qui baisse la tête au verset 5. Et dans la sommaire que nous avons lue tout à l'heure, la version, il est dit « Et le visage s'assombrit. » Mais littéralement, c'est le visage qui tombe jusque par terre. Et ça veut dire en fait être fâché, être irrité. Et au verset 6, Dieu dit « Et pourquoi ton visage est-il si sombre ?» Littéralement, « Pourquoi ton visage est-il tombé ?» Et au verset 7, Dieu parle d'élévation. « Si tu agis bien, tu le relèveras. » Quoi donc, ce visage sombre ? Oui, ce visage qui est tombé, tu le relèveras. Dieu veut relever le visage qui tombe. Et le verbe relever dans l'Ancien Testament veut parfois dire pardonner, ce qui serait magnifique. Mais ici, ce serait plutôt faire bon accueil. Faire bon accueil à quelqu'un qui, par exemple, ça nous arrive rarement, mais qui se prosterne devant vous, qui tombe devant vous, et vous le relevez. C'est ce que Dieu veut faire, faire bon accueil, relever, et c'est une invitation de la part de Dieu qui dit à Caïn que tout n'est pas perdu d'avance. Si tu as fait une erreur, tu peux recommencer de zéro si tu agis bien. C'est-à-dire, si tu changes d'attitude de cœur, ton offrande va me plaire au plus haut point. Je vais relever ton visage. Quelle belle promesse! Ce visage qui est tombé. Et cette promesse d'élévation pour Caïn et pour le visage de Caïn est une grâce, encore une fois, que Dieu lui fait, cette seconde chance que Dieu lui offre, et même cette troisième ou cette quatrième ou cette cinquième, la grâce illimitée de Dieu, l'accueil illimité de Dieu, cette invitation de revenir à lui. Et la grâce est omniprésente, encore une fois, dans ce récit, et Dieu insiste une dernière fois sous forme de mise en garde, mais avec une promesse qui dit, si tu agis bien, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, rien à voir avec Bernard, mais toi, Bernard Tapie, pardon, je fais des jeux de mots dans ma tête, mais toi, domine sur lui, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Une mise en garde que le péché est tout près, mais pas encore là en fait. Ça nous montre que l'offrande mal adaptée, on va dire, qui révèle, n'est pas péché. Qui révèle peut-être un manque de foi, un manque de relation, un manque de transparence devant Dieu, n'est pas péché. Par contre, le péché est tapis à la porte. Alors on a souvent pensé que... coucher tapis à ta porte ou coucher à ta porte était dans le sens comme d'un animal qui est à la porte et qui est prêt à bondir, comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître, comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais j'ai lu quelque part que c'était plutôt le sens de coucher comme le sens de la séduction, une attitude de séduction. On ouvre la porte, on franchit le seuil et le péché vous fait votre affaire. Vous allez me dire que le résultat est le même. C'est une mise en garde contre la séduction du péché et sa voracité qui se saisit de vous. Mais il y a une promesse. Mais toi, domine sur lui. Comme quoi, pour Dieu, et même très tôt dans la révélation, il n'y a pas de fatalité du mal. J'ai vu un film vendredi soir que je ne vous conseille pas. Joker. Si vous voulez un film pour vous détendre, pour vous amuser, n'allez pas là. C'est un film crispant. C'est un film flippant. Ça se passe dans Gotham City, vous savez, comme avec Batman, mais là, il n'y a pas Batman. C'est comme dans la création, après la chute, tout va de mal en pis, du point de vue personnel et du point de vue sociétal. C'est terrible. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas Batman. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de fatalité du mal. Dieu dit que par sa grâce et en Jésus-Christ, il n'y a pas de fatalité du mal. Et pourtant, comme dans Joker, les premiers chapitres de la Genèse nous dépeignent un monde où personne ne résiste vraiment au mal. Et on va le voir par la suite. Des hommes et des femmes, même choisis par Dieu, sont extrêmement vulnérables par rapport au péché et au mal. Et dans la vie chrétienne, on le sait bien, on est extrêmement faible et vulnérable par rapport au mal, par rapport au péché personnel. C'est le mal. Et Luther, le réformateur du XVIe siècle, disait bien, nous sommes justifiés par la foi, mais toujours pécheurs. Mais il faudrait faire attention à ce que ce constat de toujours pécheur et que cette prise de conscience de notre vulnérabilité par rapport au péché ne nous fasse pas entrer dans un certain fatalisme et dans un certain défaitisme par rapport au mal qui nous ferait dire quelque chose du genre « bon, de toute façon, c'est perdu d'avance ». Et ce défaitisme nous amènerait également à baisser la garde dans ce combat
contre le mal. Mais Dieu nous dit, toi, toi, domine sur lui. C'est quand même une phrase très très forte. Et toi, domine sur cette jalousie qui mine ta vie. Toi, domine sur ces déceptions qui te rendent tellement triste dans ta vie. Et toi, domine sur cette colère qui pourrit tes relations avec les autres. Alors ce texte ne nous enseigne pas que l'être humain pourrait se dégager de ses inclinations au mal par ses propres moyens et sans le Seigneur. Mais il nous dit une chose, c'est que l'être humain fait à l'image de Dieu doit pouvoir s'engager dans ce combat décisif, qu'il n'est pas une pure victime du mal et de ce péché, pure victime de cette société, pure victime de lui-même, de son éducation, de ses propres pulsions, mais qu'il est aussi responsable de ses propres dérives et qu'il est appelé à rentrer dans une résistance active par rapport au mal dans sa vie et dans le monde. Et le croyant de la nouvelle alliance que nous sommes en Jésus-Christ, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, peut se saisir de cette promesse de dominer le mal ou combattre le mal, on va dire, plus facilement peut-être parce que lui, il a reçu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Le Saint-Esprit qui est appelé une puissance, moi j'aime bien l'appeler une énergie, qui nous donne une énergie nouvelle, une clairvoyance et une énergie pour mener notre vie chrétienne et combattre aux côtés de Jésus-Christ contre ce mal. Alors on est déjà rentré dans les applications pour nous de ce récit de Caïn et Abel et je m'aperçois qu'il resterait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est compté. Dans le deuxième dialogue que Dieu a avec Caïn, qui recèle aussi beaucoup de richesses et des lumières insoupçonnées, des îlots de grâce aussi dans ce deuxième dialogue. Et on en parlera, ou si vous voulez m'en parler, vous pouvez venir me voir, mais voyons quelques applis du mot application pour nous aujourd'hui. Que disent nos offrandes ? Nos offrandes à Dieu qui peuvent être de différentes natures. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu ? Notre temps, évidemment, notre énergie, nos dons, nos talents et nos dons spirituels, nos ressources humaines, oui, et nos ressources financières aussi. Eh bien, le récit de Caïn nous amène à nous demander si ce que nous donnons au Seigneur représente le meilleur de ce que nous pouvons donner ou au contraire, nous lui faisons une offrande quelconque pour garder ce qu'il y a de meilleur pour nous. La question qui se pose est de savoir si avec moi, Dieu a droit au meilleur. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Est-ce que Dieu a droit à ce que disent, comme disent les Anglais, « my second best », mon deuxième meilleur, ou à mon premier meilleur ? À une offrande de première qualité. Alors, quand on parle de qualité, on a bien vu avec Caïn qu'il n'est pas question de la valeur intrinsèque de l'offrande, mais de la disposition du cœur de celui qui l'accompagne, la foi qui l'accompagne, l'offrande comme expression de la foi. Et là, on peut s'interroger si le fait que nous ne donnons pas au Seigneur, si nous ne donnons pas au Seigneur le meilleur de ce que nous avons, cela pourrait conditionnel signifier qu'il ne représente pas non plus la personne la plus importante dans ma vie. Si j'offre un cadeau quelconque ou même juste en dessous du meilleur à Dieu et que je garde le meilleur pour moi, le very best pour moi, cela pourrait vouloir dire que Dieu n'est que second dans ma vie, après moi, bien sûr. Vous vous souvenez, j'ai fait une série l'année dernière quand nous arrivions sur Colossiens et dans Colossiens 1, il y a cet hymne à Christ et on a vu que Christ était premier en tout. Il était premier de la classe partout, en création et en rédemption, premier-né de toute la création. Et le troisième point, c'était la question, est-ce qu'il est premier dans ma vie ? Et Caïn, l'offrande de Caïn nous pose cette question-là. Qu'en est-il ou que disent nos offrandes ? Et au-delà de la question de l'offrande, dont Dieu de toute façon n'a pas vraiment besoin, son exigence du meilleur renvoie en fait à sa volonté d'occuper la première place dans notre cœur. Et donc c'est donc Et donc, c'est à nous d'opérer ce fameux décentrement dont nous parlons souvent et qui est essentiel pour lui laisser en tout la première place. Parce que comme ne le disait pas L'Oréal, il la vaut certainement, cette première place. J'ai pensé ce matin, dans cette nuit, au petit matin, en parlant des premiers-nés de l'offrande d'Abel, je repensais à cette phrase de Jésus du Sermon sur la montagne, avec le mot « premier » aussi, « chercher premièrement le royaume de Dieu ». C'est ça une offrande qui va plaire à Dieu. Et là aussi, le décentrement est de mise. Et puis la deuxième grande leçon, c'est cette réaction que l'on peut avoir lorsqu'on a fait une erreur ou un faux pas dans la vie. Et la question à se poser dans la vie chrétienne, c'est pas de savoir si l'on va pécher ou faire des erreurs. On va le faire, ça c'est sûr. Mais de savoir comment on va réagir. Et la question de la réaction se pose plus particulièrement dans des situations où on a l'impression de subir, d'avoir subi une injustice, ou de ne pas avoir été traité correctement. Comment réagissons-nous quand on a l'impression de ne pas avoir été traité correctement? Quand on a l'impression d'avoir subi une injustice, et pas seulement l'impression, peut-être véritablement subi une injustice. Il y a la réaction de Caïn qui est de se laisser enfermer dans la spirale du ressentiment et de la colère, et de l'autre, l'attitude où on se pose la question « Pourquoi suis-je fâché ?» ou « Pourquoi suis-je infiniment triste comme cela ?» ou « Pourquoi suis-je en colère ?» Peut-être laisser au Saint-Esprit faire son travail et nous conduire dans la vérité sur nous-mêmes et nous amener à nous présenter devant Dieu, devant son amour infaillible et son pardon, c'est-à-dire sa grâce, mélange d'amour et de pardon, comme j'aime le définir, le mot grâce. Et puis, dans ce tableau qui pourrait être sombre, il y a la grâce qui affleure de ci, de là, comme des îlots de salut dans cette mer agitée. Et j'aime tellement ce verbe relever, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait écho à ce visage qui tombe emporté par le poids de sa faute, de sa culpabilité, de son manque de foi, de sa colère, de sa jalousie, les trucs qui nous tirent vers le bas. Mais toi, relève la tête. Et la promesse de la grâce est là, d'un chemin à prendre, se saisir de cette grâce de Dieu tout à nouveau et se poser la question, que faisons-nous quand notre visage tombe pour telle ou telle raison? Allons-nous emprunter tout à nouveau ce chemin de la grâce? Allons-nous nous saisir de cette main de Dieu qui nous tend par sa parole de grâce? Empruntons ce chemin de la grâce quand notre visage tombe sur le chemin de la vie. Et parce que ça m'a tellement frappé, je vous invite à chanter avec moi ce chant qu'on a appris il y a un petit temps. J'invite les musiciens à s'approcher. Ça ne parle pas de Caïn vraiment, mais ça nous dit « Tu viens relever le faible ». Et faible nous le sommes par rapport à ce mal qui nous environne, à cette envie de mal faire qui nous titille quand notre visage s'est relevé. Et Dieu veut relever le faible que nous sommes tous.